Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.
Eh bien bonjour, bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Périgord littéraire. Alors nous allons passer ce quart d'heure, ben, ma foi, en compagnie de Michel Jury. Alors je rappellerai pour mémoire qu'il est né à Razac d'Aimé, en Dordogne bien évidemment, en 1934. Alors c'est un écrivain, il a consacré l'essentiel de son œuvre à la science-fiction. Et avec plus de 30 livres, parmi lesquels Les Temps incertains, dont on a déjà parlé, Les Sèches du Temple, L'Orbe et la Roue, qui obtiendra le prix Apollo en 1983. Alors, il y aura aussi Le Jeu du Monde. Alors, il y aura ses origines qui vont bien sûr lui rappeler beaucoup de choses. Il y aura le Crête de Fombelle, il y aura et Les Gens du Mont Pilat. Alors, Mont Pilat, c'est une hauteur qui se trouve auprès de Lyon. Alors, il y aura les Louves debout, Une affaire criminelle en Périgord et des réalisations télévisuelles. Il y aura Ici Jacques, Rob Zone, 24 jours J, Comme jouer, etc., etc., ou L'île bleue. Alors, Le vrai goût de la vie, son premier roman a été couronné par le prix Terre de France, La vie, 1988. Alors, il y aura quand même, je crois, plus de 80 ouvrages dans la collection de Michel Jury. Et il s'éteindra en 2015 à Vaison-la-Romaine. Alors, le livre que j'ai sous les yeux, ben, il est édité par France Loisirs en 2000. Et il y a, comment je peux dire, une petite dédicace. Alors, il est dédicacé à Thérèse, à sœur Claire-Marie Boucher, à tous mes cousins, cousines et amis du Pilat, dont on en parlait, de Péluzin, Lyon, Saint-Étienne, Lorette et la Grand-Croix. Alors, pour ce livre, à revenir donc à cet ouvrage, La Soie et la Montagne, alors la montagne, ce sont les Cévennes. Alors, Alexandrine Jourdan, qui est l'héroïne de ce roman, jeune et jolie veuve, quitte à la mort de son mari les Cévennes pour Lyon. Grâce à la protection d'un riche marchand, elle va s'intégrer dans le monde des soyeux. Et c'est un véritable défi pour une femme que de s'imposer dans un contexte viril, même si elle a retrouvé Pierre, l'homme qu'elle a toujours aimé. Voilà, il y a bien sûr toujours quand même un peu de sentiment dans toutes ces histoires. Alors voilà ce qu'on nous dit, la quatrième de couverture, en quelque sorte. À la mort de son mari, une nouvelle vie commence à Lyon pour la belle et charismatique Alexandrine. Accueillie par un grand marchand, elle retrouve aussi l'homme qu'elle a toujours aimé, l'un à 60 ans, l'autre 30. Chacun l'aime à sa façon, tous les deux lui ouvrent les portes d'un monde fabuleux, mais sans pitié pour les femmes. Entre les messieurs, les commis, les ouvriers, Alexandrine découvre la ville, ses richesses, ses misères, ses beautés et ses horreurs. Et puis les mille métiers de la soirée dans le quartier de la fabrique entre Saône et Rhône et sur les ponts de la Croix-Rousse où tournent par dizaines de milliers les métiers à tisser jacquard. Alors, pauvre jacquard, il va simplifier un peu tout ça, mais il aura quand même quelques ennuis. Voilà, on y reviendra peut-être un jour. Alors, partagé entre son rêve de soi et sa nostalgie de la montagne, Alexandris est entouré d'hommes qui la protègent. La désir se servent d'elle et s'affrontent pour elle, mais elle a conservé le bon sens sévenol et la rigueur protestante. Tenace et intelligente, elle n'aura de cesse d'imposer ses vues au sein d'un monde gouverné par des intérêts mercantiles. Évidemment, les marchands de soie, c'était quand même pas des petits saints, si l'on peut dire. Alors, il y a bien sûr, elle est à Lyon, il y a beaucoup de descriptions d'ailleurs de cette ville qui était, je crois, la capitale des Gaules. Voilà. Alors, il y a Lyon en 1849, c'est un roman qui se passe bien sûr au 19e siècle et qui s'intitule ce chapitre 1, il y a beaucoup de chapitres, Un matin à Fourvière. Alors voilà ce que nous dit ce chapitre. À l'occasion d'une belle matinée de printemps, Louis-Xavier Favière me proposa une excursion sur la colline de Fourvière. Pour parler de mon avenir, me dit-il, tout en admirant le plus beau panorama du monde. Panorama du monde, je pense que la Dordogne a tout ce qu'il faut. Bon, c'était une parenthèse. Ensuite, je poursuis, je n'étais jamais encore allé à Fourvière, cette colline où l'on prie, en face de la Croix-Rousse, la colline où l'on tisse. On me priait guère ici, de la chapelle à la cathédrale, et que la façon catholique, quant au panorama, je me disais qu'il ne peut guère différer de celui qu'on distingue du sommet de la Croix-Rousse, que je connais bien. Le cocher, après un long détour sur les quais du Rhône, puis de la Saône, alors Bien sûr, il y a deux fleuves qui se retrouvent à Lyon. Il y a le Rhône, il y a la Saône, et le troisième, c'est le Beaujolais. Donc il y a quand même, autrement dit, trois rivières qui se rejoignent à Lyon. Alors, je reprends la lecture. Alors donc, puis de la Saône nous laissa sur le pont Saint-Vincent qui traverse la Saône, à quelques pas du Griffon, le quartier de la Fabrique. Louis-Xavier décida de faire l'ascension de la colline à pied, puis jusqu'à la chapelle ou peut-être jusqu'à l'observatoire, voire aux aqueducs. On prit par la montée des anges et Louis-Xavier se mit à marcher devant moi comme pour me prouver qu'il avait en bon Cévenol toujours le pied à la montagne. Alors, comme je disais tout à l'heure, la soie, bien sûr, c'est Lyon et la montagne, c'est les Cévennes. Alors, donc on va poursuivre un peu cette lecture. Voilà. Plutôt que d'engager de nouveaux employés, Louis-Xavier préférait transférer à son jeune confrère, voisin et ami certaines commandes les plus urgentes, les plus faciles, surtout les unies, comme les failles, les taffetas ou les satins. Alors, il y a plusieurs magasins. Hein. Alors, les deux magasins, l'un place Tolosan, l'autre rue Griffon, se trouvaient à deux coins de mur, à une distance égale à la longueur du pont Morand, construit en un modèle presque universel. Ils se ressemblaient entre eux et ressemblaient à tous les autres, celui que Louis-Xavier était peut-être plus grand et plus cossu, celui de Pierre Jurieux, mieux éclairé et mieux animé et achalandé, si l'on peut dire. Il y avait chacun deux portes ouvertes sur le palier, l'une conduisant à la salle des ventes, l'autre commerce, l'autre du service des maîtres, le côté industrie, les acheteurs et les commissionnaires entraient dans la première pour examiner les étoffes et remettaient en commande au commis des ventes ou parfois au marchand lui-même. Les canuts, c'est-à-dire les maîtres d'atelier, se pressaient dans la seconde pour prendre la soie séparée en chaîne, en trame, et rendre leurs pièces tissées. Voilà, c'est vrai que les soies sont très jolies. Alors, les canuts, on parle des canuts, bon, on ne connaît pas exactement l'origine du mot canu. Ça vient peut-être des canettes qui servaient à dévider la soie. Alors, c'est une supposition. Alors cette première porte, donc on en revient au magasin, cette première porte s'ouvrait sur un couloir conduisant à une vaste salle où se tenaient les employés de service, le chef, les rondiers, les brasseurs, les roquets, préposés au dévidage des commis chargés du pesage, des vérifications, des expéditions. Alors il y avait une banque qui traversait le milieu de la salle, un comptoir bas et massif encombré de pièces de chêne enroulées sur des ourdisseuses, sur des chevilles en bois dures et formées des rangées de cocons géants. Voilà, on va laisser un peu les magasins, mais cette jeune femme, elle est quand même un peu, elle est érudite. Alors, je disais souvent les quatre vers de Lamartine que Pierre avait recopié pour moi et m'avait envoyé dans une lettre d'Italie. Alors voici ce quatrain. Ainsi, toujours poussé vers de nouveaux rivages, dans la nuit éternelle, emportée sans retour, ne pourrons-nous jamais sur l'océan des sages jeter l'ancre un seul jour. Donc c'est des vers de Lamartine. Alors, on va continuer un tout petit peu. Il y a aussi les traboules. Alors, les traboules, bon, ben, c'est pareil, ce sont des passages qui réunissent de rue où passaient les gens qui transportaient les pièces de soie, donc au 19e siècle, et s'il pleuvait pour ne pas les tâcher. Alors, c'était pas toujours quelque chose de très bien. Alors, voilà ce que nous dit l'héroïne. Je pataugeais dans la crasse bourbeuse des escaliers et ajoutais à ma litanie les définitions du brocard, en me retenant de rire ou de pleurer, comme par la rosange, étoffe de soie brodée d'or et d'argent, car dans ces bâtisses humides, sales et malodorantes, des gens habiles produisaient des merveilles. Souvent, les allées et venues traversaient les bâtiments, sortaient de l'autre côté et joignaient ainsi deux rues. On disait les allées qui traboulent. Et plus tard, ce fut les traboules tout court. Je connais un peu les traboules. Je n'ai pas vécu à Lyon, mais j'ai passé quelques temps. Et c'est quand même assez spectaculaire. Bon, alors on va continuer un peu cette lecture. Au début, je n'osais guère m'aventurer pour passer d'une rue à l'autre, de peur de me perdre dans les entrailles de la ville. Et aussi parce que j'avais le sentiment d'entrer chez des inconnus. Un peu comme si dans mon pays, j'avais coupé par la cave les étables ou le couloir de ma voisin en montant ou dévalant les traversiers, comme si l'on voulait éviter toutes les tramoules, on oublie la longueur du chemin. Alors je m'élançais bravement, et en quelques semaines, je n'ai plus d'hésitation ni d'appréhension, même dans la pénombre, et quand l'allée tramboulait près de quelques fosses désodorantes que les fiacres de Vénisseux, c'est-à-dire les vidangeurs de Lyon, n'avaient pas curé à temps, j'arrêtais de respirer. Je songeais à ma chère montagne, donc les Cévennes, et le doux parfum des plantes sauvages flottait dans mon souvenir si présent, si fort qu'il chassait un instant l'affreuse peste. Voilà, alors, on parlait bien sûr de documentation. Alors, voilà ce qu'on nous dit un peu plus loin, en repartant pour la ville. Au contraire, j'abandonnais à son sort et l'ennui, la boisson précipitée dans le doute. Le déclin de ses forces était pour moi un choix difficile. La rente versée par les favières me promettait de vivre sans aller à la fabrique. J'aurais pu aider mon père ou ma à grandir la maillonnerie. À la pensée de cette vie, celle de toutes les femmes cévenoles, une douce émotion me prenait le cœur. Que pouvais-je m'imposer à ma fille, née pour un autre destin, et Pierre, donc son amoureux. Il est bien évident que les maillonneries, ben, il y en a eu partout, même en Périgord, on élevait quand même les vers à soie. Mais je crois qu'ils avaient quand même quelques petits problèmes. Voilà, et puis quand même, on n'est quand même pas dans le midi. Alors, il y a la succursale. Alors, voilà ce qu'on nous dit de la succursale. Il appréciait beaucoup le climat du Mont-Pilard, un massif très boisé et pittoresque qui se trouvait seulement à quelques dizaines de kilomètres de Lyon, entre Saint-Chamond et le Rhône. On pouvait s'y rendre en une demi-journée par le coche d'eau et la diligence. Je rappelle que nous sommes au milieu du 19e siècle. Louis-Xavier passait de temps en temps une semaine ou deux chez un moulinier de Saint-Chamond. Il se faisait conduire tous les jours dans la montagne et visiter les mouliniers, les villages environnants, Pélussin, Chavanet et Maclat. Alors, il y a l'arrivée au Mont-Pilard, bien sûr, ce Mont-Pilard est un endroit où l'on va quand même, comment je peux dire, un peu se rafraîchir. On partit par le vapeur à roue sur le Rhône, le fleuve qu'on voyait presque tous les jours depuis la berge lyonnaise paraissait bien différent, vu sur le pont du bateau, majestueux et puissant, roulant ses eaux vertes, lourdes et trompeuses, parmi les peupliers, les saules, les roseaux, les joncs et les hautes herbes, puis se brisant soudain comme un torrent sur des roches invisibles. On quittait Lyon sous le ciel dévoré par les fumées, à travers un paysage estompé, on frôlait Vienne, qui semblait une ville dans un jardin, à droite déjà, le Pilat dominait la vallée de ses forêts, de ses côtes rocheuses, et sur la gauche, dans le lointain, blanchissaient les cimes neigeuses du Dauphiné. Voilà, alors on va parler en Dauphiné. Mais Michel Jory n'oublie quand même pas le Périgord, hein, dans tous ses livres. Voilà ce qu'il nous dit. Alors, en décembre 1852, à la proclamation de l'Empire, une nouvelle prospérité s'annonçait déjà, alors que les prisons étaient pleines et des milliers de forçats en bateau pour Cayenne, à moins qu'ils ne fussent déjà au bagne. Ça pourrait être la Chambaudie, dont on a parlé quand même au sujet de la Félibrée de Montignac l'été dernier. Voilà. Alors donc, le prêtre La Chambaudie, prisonnier à bord du vaisseau du Guéclin, un radeau de Brest, aperçut un jour l'aile blanche d'un goéland qui rasait les trois sabords de sa prison. Cette vision fugitive lui inspira des vers touchants qui circulèrent dans Brest, puis dans toute la France. Alors Théo les apprit par cœur et les récita imprudemment dans les cafés où il s'enivrait un peu trop volontiers et jusque sur les places publiques. Alors voilà ce poème. J'ai vu les goélands sur la mer écumante dormir insoucieux au sein de la tourmente. Si l'un d'eux, quelquefois, poussait un cri plaintif, c'était pour son doux nid perché sur les récifs. Ainsi que nous, pauvres captifs, sur la paille des casemates et sur les humides sabords de la plus vieille des frégates, nos âmes reposées, calmes et sans remords. Et si des pleurs se mêlaient à nos voix gémissantes, c'est que nous regrettions nos familles absentes. Mais du moins les oiseaux retournaient à leur nid et nous, les malheureux bannis, hélas, reviendrons-nous vers nos foyers bénis. Alors, je dirais que la Chambaudie ne partira pas à Cayenne et il sera sauvé, mais il sera mis en exil à Bruxelles, s'il était quand même plus près de la France, où il reviendra quelquefois. Alors, je pense que là, mon temps, je crois, est imparti. Donc, je vous recommande ce livre de Michel Jory, La Soie et la Montagne. Voilà, et bien sûr, je vous souhaite une bonne semaine, sans trop de pluie ni de froidure. Voilà, à bientôt.
C'était Périgord littéraire, une émission présentée par Pierre Martial.